France Bleu Gironde, midi.
Dans l'histoire de l'humanité, notre époque est bien celle de l'accès à l'information. Vraiment à toutes les informations. Quels que soient les domaines, nous avons, sous nos cieux tout au moins, un accès en temps réel à la science, l'histoire, la littérature, les arts, la médecine, la géographie. Et pourtant, la défiance vis-à-vis de la science est exacerbée, comme dans les temps les plus obscurantistes, avec la confusion entre les faits et les opinions. Pour quelles raisons et comment y remédier? C'est l'une des grandes préoccupations des chercheurs, et pour répondre à cette question, pour établir un dialogue entre ceux qui savent et nous, le grand public, des chercheurs dont notre invitée Marie Coris propose en collaboration avec Cap Science des rendez-vous réguliers, des débats, des temps d'échange autour de ces sujets. Samedi à 17h, le collectif Tous en Sciences vous convie à réfléchir à la question des sciences sociales et à d'autres questions. À quoi servent-elles pour les sciences sociales? D'abord, de quoi s'agit-il? Et pour commencer, effectivement, que sont les sciences? Que définit-on par cela? Marie Coris est spécialisée en économie de l'innovation, enseignante à l'Université de Bordeaux. Vous menez des recherches au Greta et surtout, vous êtes très très engagée et très active sur cette problématique. Et plutôt que de vous réfugier dans votre tour d'ivoire, comme le font parfois certains intellectuels et scientifiques, vous êtes décidée, suite à la marche pour les sciences en 2017, de créer le débat, d'aller combattre le scepticisme, pour ne pas dire plus, qui se répand dans nos sociétés depuis un certain temps et d'une manière exponentielle grâce aux réseaux sociaux. Marie Coris, comment vous analysez cette anti-science et comment se manifeste-t-elle chez le citoyen et parfois aussi chez les lobbies, hein? Y a pas que... c'est à tous les niveaux qu'elle se manifeste.
C'est vraiment à tous les niveaux et justement, alors, le point de départ et le point de départ de la marche pour les sciences en 2017, qui était venu à l'occasion de l'élection de Donald Trump aux États-Unis, c'est le manque de science dans le débat démocratique. Ça veut dire que même nos dirigeants, et Donald Trump en est un exemple exacerbé, mais n'ont pas accès en fait à cette connaissance, n'ont pas accès aux sciences et prennent des positions anti-sciences, comme si on pouvait dire que le climat c'est une question d'opinion. Ben non, c'est pas une question d'opinion. Et l'enjeu donc de cette marche et ensuite du mouvement que nous on a créé à Bordeaux, c'est en fait on défend une seule chose, on a un seul mot d'ordre, c'est de rappeler que le savoir scientifique, ben c'est pas une opinion. Il y a des
peut-être. On va donner un exemple. L'eau bout à 100 degrés.
L'eau bout à 100 degrés.
Ben, c'est un fait.
C'est un fait.
Voilà.
En l'état actuel des connaissances, avec nos mesures des degrés, voilà, c'est un fait. Ça a un statut de vérité tant que ce ne sera pas remis en question. Alors que si je dis, moi je crois que l'eau bout, elle bout à 50 degrés. Bah, non seulement ça paraît idiot, parce que ça on le comprend, mais ça peut être la même chose dans d'autres domaines. Non, le réchauffement climatique, c'est pas la faute de l'humain. Bah si.
Un Français sur 10 pense que la Terre est plate.
Ouais. Ben, c'est aussi ce qui participe de ce qu'on a envie de faire, quoi, parce que c'est, moi j'y croyais même pas. Pour être honnête, quand j'ai découvert, je me suis dit, mais c'est pas possible. Eh ben, si, c'est possible. Et puis, il y a plein de, alors, il faut appeler ça, c'est pas forcément des positions anti-sciences, mais c'est un manque d'esprit critique par rapport aux infos qu'on reçoit. J'ai trouvé une médiatrice, une jeune fille qui fait de la recherche en sciences humaines et sociales aussi, en sociologie, puis qui s'intéresse beaucoup à la transmission de la, des résultats, des savoirs, l'esprit critique, qui avait projeté une image, mais trouvée sur un site qui avait l'air tout à fait sérieux sur Internet, c'était contre la souffrance des carottes quand on les pèle. Ah, ouais, donc, et c'est, ça nous fait rire.
Oui, parce qu'en l'état actuel des choses, rien ne peut nous dire que les carottes souffrent.
Qu'elles souffrent quand on les pèle, non.
Oui, donc, en fait, on est parfois aussi dans le délire.
Oui. Et en fait, la frontière est difficile à faire. Moi, par exemple, et comme vous tous, sur certaines connaissances, je vais pouvoir faire le tri. Mais sur d'autres, ben non. Et ce qui va me sembler crédible, parce que ça va être bien argumenté, bien écrit, parce qu'on va se référencer à des soi-disant, d'ailleurs souvent, articles scientifiques, mais qui sont sur des liens impossibles, où soit on n'a pas accès, soit de toute façon c'est écrit en anglais avec des mots extrêmement compliqués, des équations de partout, et ça peut être construit de toutes pièces. Moi aussi je peux, mais évidemment, parce qu'on est tous des citoyens. Donc il y a un défaut, un manque d'esprit critique, mais parce qu'on nous piège aussi assez facilement.
Et est-ce qu'on nous a appris à avoir cet esprit critique?
Je crois pas.
C'est quoi, c'est une défaillance de l'école au départ?
Mais alors, attention, il va dévoyer le journaliste en disant c'est le journaliste qui a mal traduit mes travaux de recherche. Et on peut faire la même chose avec l'école. En fait, on peut tous s'accuser parce qu'il y a aussi des chercheurs qui sont malhonnêtes, il ne faut pas l'oublier. Mais alors, je ne sais pas quel est le rôle de l'école. Alors aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et sur la place bordelaise aussi, la ville de Bordeaux, il crée tout un dispositif d'enseignement de l'esprit critique. C'est peut-être un défaut d'histoire des sciences aussi. On nous apprend pas. On nous apprend pas l'esprit critique, on nous apprend pas les sciences, on nous apprend des formules. Moi, j'ai eu le sentiment, ça m'intéressait pas les sciences quand j'étais.
Et pourtant, vous êtes chercheuse.
Et pourtant, je suis chercheur, mais je suis en économie.
Je dis chercheuse. Oui, oui. Vous dites chercheur, vous.
Ah ben moi je dis chercheur,
d'accord, mais
on peut même dire chercheur, mais
d'accord.
Voilà. Et parce que je pense qu'on donne pas, et c'est le deuxième mot d'ordre en fait de notre collectif, c'est on donne pas assez de plaisir avec les sciences. Alors je vais vous citer Nietzsche parce que je suis un chercheur et que je suis un intellectuel, donc c'est ça. La science donne à celui qui consacre son travail et ses recherches beaucoup de satisfaction, à celui qui en apprend les résultats beaucoup moins, fort peu. Et c'est vrai. Et donc l'enjeu, l'envie aussi, c'est de dire, d'abord de rappeler que les sciences, elles sont accessibles. Bien sûr, je peux me mettre demain à faire de la physique quantique, mais je vais peut-être pouvoir comprendre deux ou trois petites choses. Elles sont accessibles et on peut se faire plaisir avec, et on peut comprendre.
On va continuer cette conversation autour de la science, de la nécessité d'avoir un esprit critique et donner rendez-vous à celles qui sont intéressées samedi 6 avril prochain pour votre rencontre SMS hein, dans le cadre de Tous en Sciences, cette plateforme que vous animez. Marie Corrie, vous êtes notre invitée sur France Bleu Gironde pour Place des Grands Hommes jusqu'à 13h.
Place des Grands Hommes.
Nous parlons de science. Nous allons essayer d'avoir confiance dans les sciences avec notre invitée Marie Corrie. Marie Corrie, hein, je rappelle que vous êtes chercheur, chercheuse. Vous menez vos recherches au GRETA. Vous êtes enseignante à l'Université de Bordeaux. Et vous animez une plateforme qui s'appelle Tous en Sciences. Et vous donnez plusieurs rendez-vous dans l'année. Le prochain, ce sera samedi 6 avril, en collaboration avec Cap Science.
Voilà. Oui.
Et le prochain rendez-vous, un peu plus tard dans l'année, ce sera le 30, avec une kermesse de la science en quelque sorte. Hein.
C'est ça.
Alors, juste pour ceux et celles qui nous écoutent, pour poser les choses, samedi, on se donne rendez-vous pour...
Alors, samedi, c'est le débat SMS, donc c'est les débats... sous forme de plateau télé, donc science, médias, société, dont témoignent, délivrer des messages, discuter, des chercheurs, des journalistes, des médiateurs des sciences, et puis aussi ceux qui les encadrent ou ceux qui les vivent au quotidien. Et notre thématique samedi, c'est à quoi ça sert les sciences sociales ?
Que sont les sciences sociales ?
Que sont les sciences sociales et à quoi ça sert ? Pourquoi ? Parce que, je le disais à l'instant, c'est un peu facile dans les sciences dites dures de dire, l'oubou à 100 degrés, c'est un statut dit de vérité, donc on fait bien la part entre le savoir d'un côté et l'opinion de l'autre. En revanche, si je vous dis, est-ce qu'il faut indemniser les chômeurs pour ou contre le revenu universel ? Là, c'est plus compliqué.
C'est de l'opinion.
Ça va renvoyer à des questions d'opinion. Et donc, c'est difficile d'éclairer les débats. Et on me pose souvent cette question, à quoi ça sert, donc comment ça éclaire, comment on peut les comprendre, pourquoi ce sont des sciences, pourquoi elles produisent des savoirs, même si derrière, ensuite, il y a de l'appropriation, de l'interprétation, il y a des questions d'opinion et de politique. C'est ce qu'on a envie de discuter avec le grand public, et à travers des exemples, des témoignages, et sur un mode où les gens ne s'écoutent pas parler, puisqu'en fait, les débats sont interactifs, et on leur laisse à peu près chacun entre 3 et 5 minutes, donc il y a une quinzaine d'intervenants, mais... ils viennent délivrer un message et ensuite ils sont évidemment accessibles pour répondre aux questions, pour échanger, mais c'est en mode interactif.
Donc
à 17h à Cap Science, sur entrée libre, mais moi je conseille de vous inscrire sur le site Tous en Sciences, c'est très simple, vous écrivez Tous en Sciences au pluriel .fr et vous trouvez toutes les infos pour ensuite pouvoir vous tenir informé aussi pour tous ceux qui le souhaitent des futurs événements.
Autre rendez-vous, un peu plus tardif celui-là, le 30 juin avec une kermesse. Et là, c'est vraiment pour inviter les enfants, pour
tout le monde.
Former l'esprit critique des plus petits.
Ouais. Alors la grande kermesse qui s'appelle Ramène pas ta science aura lieu donc le dimanche 30 juin après-midi en soirée au parc de Pexoto à Talence. Donc le rendez-vous est déjà pris. L'idée, c'est de se faire de donner du plaisir, du rêve avec les sciences. Donc on va pas exposer ce que font les chercheurs. On va pas faire comme la fête de la science ou la nuit des chercheurs où on montre ce que l'on fait au quotidien dans nos laboratoires. Là, on va prendre des petites expériences scientifiques, des savoirs connus, et on va les décrypter. On va faire jouer tout le monde avec les sciences. Alors ça s'adresse vraiment, mais à tout le monde, à tous les citoyens, des plus petits, puisqu'il y aura un coin d'ailleurs dédié aux plus petits d'entre nous, jusqu'à tout le monde. Et alors, donc ça a lieu le 30 juin, mais avant ça, on recrute des bénévoles. Donc moi j'ai une série de bénévoles, et les bénévoles, c'est pas forcément des scientifiques qui vont venir expliquer leur science. Au contraire, il y aura évidemment des scientifiques spécialistes sur chacun des stands pour répondre aux questions. Mais en fait, c'est tout le monde, tous ceux qui ont envie de participer à un stand, de donner du plaisir, de découvrir aussi, voilà, et d'animer les stands. Alors, il y aura le décryptage, j'aime bien celui-là, le décryptage du jeune massacre ou du Chamboultou, où en fait, il s'agit pas de muler comme un âne, comme on dit, mais même le plus gringalet d'entre nous, ou Mamie Grabataire, peut gagner au Chamboultou, puisque c'est une question de force et de trajectoire physique. Alors, moi, je saurais pas, pour l'instant, l'expliquer. Voilà. Donc, c'est cette idée. Donc, si vous êtes intéressé, c'est parce que ça s'adresse à tout le monde, aux citoyens. Pour l'instant, j'ai une équipe avec des chercheurs, des étudiants, du personnel administratif et puis des citoyens qui entendent parler de nous et qui viennent remplir les rangs. Donc, ça aussi, vous trouvez les infos sur le site. Et sinon, je l'annonce, si ça en intéresse certains, vous pouvez nous rejoindre à notre prochaine grande réunion de conception où on se présente les stands, on les calibre, on les imagine, on crée les équipes. Et ça, c'est le 11 avril. À 17h, à la BU des sciences et techniques, c'est-à-dire en fait à l'arrêt du tram B, arts et métiers. C'est vraiment ouvert à tous et toutes.
Ça fait beaucoup d'informations. On mettra bien sûr tous les liens sur francebleu.fr. Marie Coris, on se retrouve dans un instant sur France Bleu Gironde.
France Bleu Gironde.
Dans Place des Grands Hommes, Marie Coris est notre invitée. Marie Coris est une scientifique, chercheure, enseignante à l'Université de Bordeaux. Vous êtes spécialiste en sciences de l'innovation. Très brièvement, il s'agit de quoi la science de l'innovation ?
Alors, c'est en économie de l'innovation. C'est-à-dire que moi, je m'intéresse aux inventions, aux innovations, à leur histoire, à leur impact économique. Donc, moi, je travaille sur l'innovation en tant que processus de production. Et en ce moment, on a un projet qui est plutôt sur les délocalisations de fonctions de recherche et développement. C'est-à-dire que l'innovation, elle quitte aussi parfois un peu notre territoire.
Hélas. Non.
Les pays émergents émergent, donc en fait la concurrence se joue.
Oui, parce qu'on parle toujours des cerveaux qui s'en vont.
Mais il y en a qui arrivent aussi.
Qu'en est-il ? Faisons le point. Il y a combien ? Il y a plus de 5000 chercheurs ici sur la métropole bordelaise.
Oui, je pense.
Donc ça phosphore, c'est absolument extraordinaire.
Oui, et puis on a des cerveaux qui s'en vont, mais on en a aussi qui arrivent.
Oui, parce qu'on parle toujours de cette fuite des cerveaux. On dit toujours la France ne sait pas retenir ses intellectuels, ses scientifiques, ses génies. C'est vrai ou c'est pas vrai ?
La France nous décourage un petit peu, nous les scientifiques, mais on va peut-être pas trop rentrer dans ces débats. On en a qui s'en vont, mais on en a, donc je veux dire, qui arrivent et qui arrivent de partout. Hein. On parle parfois plus anglais à l'université que français.
En tout cas, vous ne ménagez pas votre effort pour aller vers le grand public, pour transmettre la problématique de la science et surtout pour lutter contre l'anti-science, pour lutter contre le complotisme ambiant, pour lutter contre la défiance vis-à-vis de la science, pour que chacun puisse développer son esprit critique et lire en particulier les informations qui sont contenues sur Internet et sur les réseaux sociaux avec un regard critique et ne pas prendre tout sans recul.
C'est ça, oui. Et c'est un peu l'enjeu justement d'être un collectif local, non, un collectif donc citoyen qui s'est monté l'année dernière. Et en fait, c'est vraiment notre enjeu, c'est d'aller vers le public. C'est pas de. Alors, c'est vraiment de descendre dans la rue, de faire. Vous parliez de Tour d'Ivoire tout à l'heure, mais c'est exactement ça. On veut faire descendre le chercheur de son piédestal ou de sa Tour d'Ivoire, d'où il contemple le monde en se disant que c'est trop compliqué ce qu'il a à dire. Et en fait, on veut l'amener dans la rue. Alors pas encore dans les cités, mais je sais qu'avec Capscience, on peut avoir des idées comme ça parfois un peu. Ils le font. Ils vont vraiment sur des places de marché. C'est à la rencontre du grand public pour dialoguer avec et pour que les gens aussi puissent poser leurs questions. On a tous le droit de se demander si le vaccin c'est bon ou c'est pas bon. Bon, ben c'est pas une mauvaise chose. Moi, je me pose la question, alors le café finalement, c'est bon ou mauvais pour le foie ? Jusqu'à récemment, on nous disait qu'il fallait surtout pas en boire plus d'une tasse par jour, c'est très mauvais pour le foie. Et maintenant, j'ai entendu, et sur France Inter, dans une émission scientifique, que chaque tasse de café était bonne pour mon foie. Alors, et c'est ça dont on veut parler aussi,
oui, parce que
c'est normal, qui croire. Mais le savoir, il évolue, ce qui est vrai un jour n'est pas forcément vrai le lendemain, ce qui est normal, puisque les connaissances, elles sont cumulatives, on fait des découvertes, et donc c'est ce qui est aussi passionnant, ça veut dire que on évolue, on découvre,
découvre
des choses, et il ne faut pas avoir peur de se dire, ah mais si hier c'était bon, aujourd'hui c'est pas bon, qui croire ? Non, mais c'est la vie. Et on va plutôt dans le sens du progrès quand même, globalement, si on voit notre espérance de vie, notre état de santé.
Oui, parce qu'on est très catastrophiste.
On est très catastrophiste.
Aussi, hein, on a l'impression que le monde va très mal aujourd'hui, alors qu'il n'est jamais allé aussi bien d'une certaine manière. Les scientifiques le disent quand ils font des études, il y a moins de violence que au siècle dernier partout.
C'était mieux hier. Évidemment qu'il y a des grands défis, des défis énormes qui nous attendent, des grands challenges qui pourront se traiter que par le mélange des sciences d'ailleurs entre elles, leur hybridation. Mais justement, le challenge, c'est un défi. Et on est trop catastrophiste parce que oui, il y a des problèmes. Évidemment qu'il y a une urgence climatique et il faut s'en saisir. Parce que d'un autre côté, c'est ce que vous disiez, on va bien quand même aujourd'hui, on va bien, on vit mieux. Alors il y a tout aussi, les antibiotiques c'est pas forcément très très bon pour la santé, mais quand même ça nous a bien guéri, ça nous a aidé, ça. Donc il faut peut-être se donner les moyens d'être positif. Positif, c'est pas optimiste.
Voilà, et les scientifiques veulent descendre dans la rue, aller à la rencontre du public pour dire tout ce qui est positif dans le monde dans lequel nous vivons et de pas regarder les choses uniquement par le filtre de ce qui n'est pas positif, de ce qui est surdramatisé bien souvent, et en particulier par les médias. Vous restez avec nous, Marie Coris, on va poursuivre cette conversation. J'espère qu'on aura le temps, parce qu'il y a tellement de choses à dire, vous êtes tellement passionnée. J'aimerais qu'on parle aussi de Bordeaux 2050. Vous avez imaginé un truc un peu fou que nous aurons peut-être le temps d'évoquer. Et dans quelques instants, nous allons faire un bond dans l'histoire. On va s'intéresser, comme nous le faisons depuis hier, avec Alexandre Vibard, à l'histoire du Château de Verre dans notre séquence patrimoine.
France Bleu Gironde.
Nous parlons de science, il faut s'intéresser aux sciences. Alors parfois on n'y comprend rien, vous avez raison, c'est vrai, c'est très compliqué. La science sont des hommes et des femmes qui font des années et des années d'études, de recherches pour innover, pour inventer, pour faire la révolution dans le monde, dans le quotidien. Eh bien il y a des chercheurs qui ont décidé de prendre tout cela à bras-le-corps, comme Marie Coris qui est avec nous, qui est chercheur à Bordeaux, enseignante, et qui anime la plateforme Tous en Science et qui invite les citoyens, petits et grands, à réfléchir, à débattre, à discuter autour de la science. Premier rendez-vous à Cap Science, 17h samedi. C'est donc Tous en Science avec des débats SMS sur la problématique des sciences sociales. Plus tard, il y aura un autre rendez-vous. Ce sera le 30 juin pour la kermesse avec les tout-petits, plein de stands. Ça va être rigolo, très amusant. Et puis le 11 avril, il y a un autre rendez-vous. Si vous voulez venir bénévole et rejoindre donc ce collectif, vous le pouvez. Voilà, j'ai bien résumé, Marie-Corrie.
Très bien, c'est
parfait. Très bien. L'histoire, c'est une science.
Oui.
L'architecture, c'est une science, d'une certaine manière.
Oui, c'est une science.
Alors, on va avoir les deux. On va avoir l'histoire et l'architecture dans Pierre et Nature sur France Bleu Gironde. Direction le bord de la Dordogne avec une bâtisse majestueuse, le Château de Verre. C'est le sujet de notre série de reportages Pierre et Nature cette semaine. Et aujourd'hui, Alexandre Vibard et son guide font le tour de cette forteresse pour nous raconter les différentes époques de construction.
Depuis la cour d'honneur, le visiteur peut observer sur sa gauche une tour enchâssée dans un petit bâtiment, vestige du Moyen-Âge à l'aspect sévère mais solide, puisqu'elle a été construite pour résister aux guerres. Les autres parties du château de Verre ont été bâties avec plus de recherche et d'ornement. Un héritage architectural qui date d'une période où ces anciennes places fortes n'étaient plus utilisées pour la bataille mais pour le confort. Sylvie Boucli, directrice du château, nous décrit la façade principale visible dans cette cour d'honneur.
Alors devant nous, là, nous voyons tous les éléments qui évoquent la Renaissance. Le futur roi Henri IV vend le château de Verre en très mauvais état après les guerres de religion. Il y avait eu la guerre de Cent Ans, bien sûr, les guerres de religion, etc. Il vend un de ses proches qui s'appelait Augier de Gourgues, qui était un financier de notre région. Et Augier de Gourgues a les moyens d'entreprendre des grands travaux de restauration. On est en 1583. Il va faire appel à un très grand architecte de l'époque, qui s'appelait Louis de Foix, à qui l'on doit surtout le phare de Cordouan. Mmh. Voilà. Et donc, des grands travaux de cette période-là, de modernisation, on peut dire, vont être entrepris. C'est la fin de la Renaissance, c'est pour ça que cette façade est très décorée, c'est déjà un peu chargé, c'est ce qu'on appelle une période maniériste. Mmh. Alors la façade est très très belle, à part la pose des vitraux, elle est restée exactement comme à l'origine, et on peut voir énormément de sculptures, de guirlandes de fruits, des draperies, des feuillages.
Un faux balcon en bas.
Voilà, alors il y a beaucoup de trompe-l'œil. Tout ce que vous apercevez qui semble avoir été muré, ça a été en réalité conçu comme ça.
De l'autre côté de ce bâtiment se trouve le jardin La Française qui donne sur la Dordogne et une autre façade monumentale, témoignage de la dernière époque de construction du château. Les compagnons sont à l'œuvre sur la partie supérieure.
Alors là, vous apercevez les travaux qui s'achèvent. C'est la réfection du dôme en totalité, sa charpente, toutes les ardoises et le petit lanternon au sommet.
Vous êtes quasiment constamment en travaux, non ?
Chaque hiver, oui. Souvent, ça démarre en septembre-octobre et ça s'achève à peu près à la réouverture du château qui est à Pâques.
Donc là, le dôme au milieu de la façade, ça a été... L'idée, c'était de refaire la charpente et les ardoises, toit ?
Oui, voilà, qui menaçait un peu d'effondrement, d'ailleurs. Donc des poutres énormes, toute une construction. Donc c'est une partie du château qui date d'un peu avant 1700, quand toute cette façade dominant la Dordogne a été rénovée. Alors à cette période-là, on a harmonisé les deux bâtiments de part et d'autre du pavillon central.
Oui, parce que c'est plus uniforme que ce que l'on voit de l'intérieur de la cour.
Voilà, les deux bâtiments, quand on est à l'intérieur de la cour, ils sont très disparates. Et de ce côté-ci, il a été créé comme un décor à droite pour redonner de la hauteur. Et puis, on a mis une grande balustrade, alors c'est l'époque Louis XIV, une balustrade typique comme style Louis XIV, sur ce qui fait encore très médiéval les bases, la façon rempart.
Certains monuments historiques, fruits de l'évolution architecturale de plusieurs époques, peuvent avoir un aspect patchwork pas toujours très gracieux. Mais au château de Vert, l'ancien et le très ancien se marient avec style.
Et si vous voulez voir ces façades qu'Alexandre Vibard et son guide viennent de nous décrire, il faudra patienter un peu, puisque le début de la saison touristique et l'ouverture du château sont prévus pour les vacances de Pâques. Encore quelques jours à attendre. Si vous n'êtes pas patient, rendez-vous sur francebleu.fr, vous trouverez des photos récentes et ces reportages en réécoute. Demain, nous poursuivons cette série Pierre et Nature, et nous allons pousser les lourdes portes du château de Vert pour découvrir les vastes salles et la décoration intérieure d'époque. Marie-Corée, s'il y a des lieux comme ça qui vous parlent ici en Gironde? Des lieux d'histoire ?
Des lieux d'histoire, je crois que je connais assez mal en fait ma région.
Sortez de votre laboratoire.
Il faut que je sorte de mon laboratoire, vous avez raison. En revanche, je suis super contente que le Muséum d'Histoire Naturelle ait enfin réouvert et je me fais une joie d'aller le visiter ce week-end.
Armez-vous de patience, parce que je pense qu'il y aura un peu de monde. Hein.
Alors, bon, alors j'irai peut-être que dans 2-3 ans, mais j'ai peur qu'il referme ici.
C'est un succès, absolument.
Bah oui, on l'attend tous. On l'attend tous.
Et en attendant, vous pouvez revoir les images, parce que nous y étions pour la matinale de France Bleu la semaine dernière. On a réalisé plein de reportages pour vous le faire découvrir.
On
a vos premières. Vous avez un dossier très, très, très complet sur francebleu.fr. On poursuit notre conversation autour de votre passion pour la science et de votre passion pour la transmission vers le grand public de cette science pour lutter contre tous les anti-sciences et tout ce qui se développe, en particulier sur les réseaux sociaux. Nous en parlons sur France Bleu Gironde, en Place des Grands Hommes, avec vous Marie-Corée, jusqu'à 13h.
France Bleu Gironde, midi.
Comprendre le monde qui nous entoure. Comment comprendre le monde qui nous entoure ? Face au flot d'informations, des informations contradictoires, c'est bien évidemment difficile. Alors que font les chercheurs, les scientifiques ? Eh bien, ils essaient d'aller vers le grand public et pour nous prendre par la main, pour nous aider à comprendre ce monde si complexe dans lequel nous vivons. Marie Corris est l'une de ces chercheuses. Vous vivez à Bordeaux où il y a plus de 5000 chercheurs. Vous êtes enseignante à l'université. Vous êtes spécialiste en innovation. Et donc, vous avez monté la plateforme Tous en Science et vous invitez ceux et celles qui nous écoutent à participer à ces débats SMS, Sciences, Médias, Société, à Cap Science, 17h, c'est samedi prochain. Voilà, donc un temps d'échange avec des questions. Poser des questions, il faut oser poser des questions, hein, c'est ça, on pose plus de questions.
Il faut oser poser des questions.
Comme les enfants.
Exactement, c'est ce qu'on se disait. Il faut être comme des enfants, il faut pas avoir peur de poser des questions. Il faut pas se demander, est-ce que j'ai tout bien compris, est-ce que je vais oser, est-ce que je suis intelligent. On s'en fiche, qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce qui vous questionne.
C'est la seule chose. Et en fait, les spécialistes, on leur demande d'avoir une réponse quand même qu'on puisse comprendre.
Ah ben oui, ils sont là pour ça, sinon ils ont pas le droit de participer. L'idée, c'est vraiment de créer des lieux où on a le droit de poser des questions. Il vaut mieux venez nous les poser plutôt que les poser à Internet. Et puis, il faut vraiment être comme un enfant. Parce que si on garde les questions pour soi, ben on pourra jamais les comprendre, en fait. Et comprendre le monde, ça veut pas dire tout savoir. On va pas tout apprendre sur toutes les sciences, mais on peut essayer de comprendre, de décrypter, de se poser des questions. Comment le monde fonctionne, Et il faut rendre la recherche, les chercheurs, accessibles au grand public. Alors on pourra faire autant de choses que l'on veut, on pourra écrire autant d'articles scientifiques que l'on veut, on pourra, ça nous rend pas accessibles. Et je crois que il y a une dimension locale aussi vraiment importante. Voilà, ils sont là. Et vous en avez, je crois que vous avez regardé plus de 5000. Alors, ils sont pas tous abordables, mais je vous assure qu'ils sont là et qu'ils sont en plus, ravie de pouvoir vous éclairer parce qu'on a tous, enfin, on est très nombreux à lutter justement contre cette perversion du doute du chercheur qui est normal ou dans lequel les anti-sciences s'engouffrent en disant mais ils ne sont sûrs qu'à 95%. C'est normal, ces statistiques. Ça veut dire qu'il reste 5% de doute et c'est, enfin, mais non.
Oui, ce que vous voulez offrir, c'est des clés de décryptage.
Oui.
Dans un monde complexe.
Et puis de l'accès aussi.
Et qu'on puisse aller
poser des questions.
Au-delà du titre de l'article.
Exactement.
Hein. Ah, c'est ça aussi qu'il faut bien expliquer. On a mille choses à se raconter. Vous êtes comme une enfant d'ailleurs, parce qu'avec les autres chercheurs que vous rencontrez, vous êtes dans leur labo, ils vous expliquent le monde du cerveau, le monde de ceci, le monde de cela. Vous êtes comme une gosse, hein, en fait. Hein.
Ben voilà, et je vous assure que c'est chouette. Hein.
Ouais, j'imagine.
C'est vraiment merveilleux de rencontrer tous ces gens-là et de travailler avec et de se faire expliquer des choses. Surtout quand on dit, je sais même pas à quoi ça ressemble un cerveau. Bon, ben voilà, on m'en dessine un. Mais vous voyez, on va loin, nous aussi. Donc...
Marie-Corée, je vous laisse 2 minutes pour expliquer un super projet.
Ah oui.
2050. Voilà, il y a eu beaucoup de débats autour de 2050. Bordeaux 2050. Et alors, vous avez imaginé un truc un peu fou. Hein.
Oui, alors il faut que je garde quand même une part de suspense. Oui. Mais je vous donne à tous rendez-vous le 20 novembre prochain pour le procès de l'intelligence artificielle. Nous nous situerons à Bordeaux en 2050. Et je vais quand même garder une part de surprise, mais on essaie de construire un procès de l'intelligence artificielle, donc vous verrez, l'intrigue est une intrigue policière vraiment polar de gare, mais pour décrypter avec vous, en fait, toutes les questions qu'on se pose sur l'intelligence artificielle. Et si une intelligence artificielle prenez le contrôle. Mais est-ce que c'est possible? On en est où? Et pourquoi 2050? Parce que, bah, justement, les transhumanistes estime qu'en 2050,
l'intelligence... On va expliquer ce que sont les transhumanistes.
Alors, ça va être un peu...
Des gens qui, de toute façon, pensent qu'il y a une humanité nouvelle qui va naître, augmentée.
Une humanité, ouais, augmentée, qui date, si vous voulez, en 2050, le moment où l'intelligence artificielle sera supérieure à l'intelligence naturelle. Et donc, eux, ils voient leur projet absolu, c'est la fin de la mort, c'est l'immortalité, par exemple. C'est donc de traiter la mort, par exemple, comme une maladie. Donc, c'est des grandes thématiques qui reviennent. Et donc, il y a cette date de 2050 qui apparaît. Et donc, on invente une histoire. On est à Bordeaux Métropole en 2050 et on va pouvoir, bah, justement, revenir sur tout ce qui nous fait peur, sur tout ce qui devrait nous faire peur et aussi... sur toutes les questions, voilà, que peut poser le développement de l'intelligence artificielle pour décrypter tout ça. Donc ce sera un projet assez fou qui se fera en novembre, mais vous pourrez suivre le déroulement de l'intrigue avant, bien
avec un vrai procès, hein,
avec un vrai procès
au
qui
tribunal.
Devrait normalement si tout va bien se jouer effectivement au tribunal de Bordeaux.
Voilà.
Ces questions,
effectivement, autour de l'intelligence artificielle, nous avions le plaisir de recevoir Jean-Gabriel Cosse, il y a de cela quelques jours, qui a écrit un roman sur le sujet. Alors, lui, il l'aborde de façon assez positive. Il dit, il n'est pas nécessaire de s'inquiéter, il faut être prudent, mais peut-être que l'intelligence artificielle va donner plus de facilité aux êtres humains, plus de bonheur, et puis nous mettra à l'abri des pires défauts de l'être humain. Ça s'appelle l'algorithme du cœur, paru chez Flammarion.
Mais tout dépend de ce que l'on en fera, justement. Je crois que la question que vous posiez tout à l'heure, elle est là. Tout n'est pas catastrophique. Mais il faut se saisir des défis qu'on a à relever avec plein de petits scientifiques qui vont naître dans les futures années.
Oui, comment on fait pour susciter des vocations?
Je sais pas. Moi, j'organise une kermesse. Je vais essayer. Alors, je précise aussi que tout sera gratuit à la kermesse du 30 juin pour essayer, sauf bon, évidemment les buvettes, mais pour essayer de donner du plaisir, de créer un choc. Je crois beaucoup. Moi, je prends comme référence un grand paléontologiste, Stéphane Jégoule, qui a eu sa révélation à 5 ans au Muséum d'histoire naturelle de New York. Et là, je me dis, bah, mon enfant, c'est pour ça que je suis assez pressée d'y aller avec un enfant de 5 ans pour qu'il ait la même.
Voilà, il y a révélation.
Il y a des moments dans la vie et qui nous quittent plus jamais. Et je crois qu'il faut travailler pour, même si on n'en touche que 2 sur 5000 ou 2 sur 400, créer de l'étincelle.
Ouais. C'est à la fois une scientifique et une maman qui pense au futur de son petit garçon, hein, c'est ça, et c'est dans cette perspective-là que vous réfléchissez à ce rapport à la science et cette nécessité de comprendre le monde qui nous entoure. Vous restez avec nous dans quelques instants. L'histoire du jour avec Bruno Beurrier, on va regarder les bateaux sur la Garonne avec lui.
France Bleu Gironde.
Marie Goris, scientifique, chercheuse, qui porte ce magnifique projet, c'est plus qu'un projet, d'ailleurs c'est une invitation pour le grand public à aller réfléchir autour de la science pour lutter contre l'anti-science. Prochain rendez-vous le 6 avril, je vous donnerai les détails dans quelques instants. Marie Goris, ça s'est passé dans la matinale de France Bleu Gironde. Tous les jours à 7h50, nous avons Bruno Beurrier, qui est guide, qui connaît très très bien l'histoire de Bordeaux, et qui nous raconte au micro de Dominique Bourdeau ces histoires. Et aujourd'hui, nous sommes sur les flots.
La saison des paquebots est repartie. Alors évidemment, dans le port de Bordeaux, il y a des paquebots, mais pas que, loin s'en faut, Bruno.
Et tout à fait, bonjour à tous. Alors, quel plan d'eau pour les bateaux? Il faut dire que notre département, en plus de notre belle Garonne et Dordogne, compte le plus grand estuaire d'Europe, celui de la Gironde, pour ne pas le nommer. Je vous parle des bateaux qui vous emmènent de 1 heure, 2 heures ou toute la journée sur ce plan d'eau absolument magnifique. Et alors, pour ceux qui s'en souviennent encore, mais il a disparu maintenant en 2013, il a vogué pendant 30 ans, je veux parler du ville de Bordeaux. Tout le monde se souvient de la tête de Bacchus qu'il y avait, qui était assez kitsch à l'avant du bateau, et qui était l'œuvre de Francis Poupeau, bateau qui avait été construit sur les chantiers de Bacalan en 1933. Alors après, aujourd'hui, vous pouvez, grâce avec Philippe Canel, les croisières Burdigala qu'il a créées en 1999, voguer sur la Garonne, la Dordogne et sur la Gironde. Puis ensuite apparaîtra la compagnie de dérive d'Olivier Pédaros en 2012. Alors lui, il vous fait partir de Blaye ou depuis Cussac pour visiter toujours ces merveilles. Ensuite, nous avons en 2014 Bordeaux River Cruise qui a été créé par les père et fils Lacour et de Mecménen et Gurnade. Ensuite, nous avons eu, alors là, un peu particulier, venu de la côte baltique, Francis Joanny nous vous propose de monter sur son bateau un peu particulier, qui est le Marco Polo, qui est un bateau qui a été construit en 1934 sur les bords de la Baltique. Et un dernier qui vient d'arriver pas plus tard que hier et qui vogue aujourd'hui sur la Garonne, Dordogne et la Gironde, la compagnie Yacht de Bordeaux vous propose un yacht italien construit, vous m'excuserez, à Monaco en 1952, Thomas Bettini, et le dernier qui arrive pour vous emmener voguer sur la Garonne. Je pense à vous qui êtes dans les bouchons, prenez le bateau. Vous me l'avez coupé, je voulais la chanter pour être sûr qu'il pleuve aujourd'hui.
Nous, on voulait avoir encore un peu de beau temps, donc on s'est dit, tiens, on va mettre Eric Moreno plutôt.
Sera plus bien sûr. Joué, Dominique. Bien joué.
Bruno Beurrier, tous les matins sur France Bleu Gironde, qui nous a bien baladé sur les bateaux ce matin. À demain, Bruno.
À demain.
Merci beaucoup, Dominique Bourdeau, entre 6h et 9h sur France Bleu Gironde, et bien sûr, l'histoire du jour avec Bruno Beurrier. Puisque nous étions sur les flots, parlons du pont. Information importante, il y a un bateau qui arrive, qui s'appelle le Brémar, et date de passage aujourd'hui, donc fermeture à la circulation de 17h à 19h. Voilà, fermeture totale du pont Chaban-Delmas ce soir. Notez-le si c'est l'itinéraire que vous empruntez. Marie Goris, il nous reste à peine quelques minutes. On a parlé de la science, de votre volonté effectivement de mettre la science au cœur de nos vies et de mettre les chercheurs au cœur de nos vies, d'aller à la rencontre des chercheurs et que les chercheurs viennent aussi à la rencontre du grand public pour éviter toutes les théories du complot et toutes les problématiques que l'on voit en particulier sur les réseaux sociaux. Et demain, il y a un événement Femmes et Sciences.
Oui, alors demain, je donne rendez-vous à tous ceux et toutes celles qui le souhaitent. On organise un midi-débat avec un plateau paritaire, 3 hommes, 3 femmes, sur la place des femmes dans les sciences. Et on va retrouver quand même pas mal de stéréotypes qui ont vraiment la vie dure.
Du genre
du genre, en fait, c'est vrai, quoi. Il y a un écart entre les hommes et les femmes. Alors, on commence au même niveau, à peu près. Donc, on a la même carrière dans les sciences, hein, quand on arrive, mais 10 ans plus tard... voilà, les hommes sont loin devant. Après, il y a aussi plein. Alors, justement, c'est fait en association avec la fondation Ibsen, qui édite des mangas un par an. Ils en sont à 3 et c'est gratuit. Et je les distribuerai demain sur des trajectoires de femmes dans les sciences. Et on retrouve donc l'histoire d'une interne en médecine avec toutes les blagues à la noix, mais qui sont pas que des blagues, hein, du rapport genré homme-femme. Voilà. Et l'idée là, c'est de débattre avec tous ceux qui le souhaitent, hein, d'en prendre conscience et de se dire, parce que même dans le monde scientifique, on est quand même dans le monde intellectuel, ben non, hein, les mêmes que dans la vie quotidienne, les mêmes stéréotypes.
Ça a lieu, rappelez-nous.
Alors, oui, ça a lieu, alors, à l'arrêt de tram B Bethany, c'est dans le grand bâtiment à 22 qu'on voit tout de suite à l'arrêt du tram B Bethany dans l'amphi Wegener. Donc c'est un amphi qui est en bas, mais ce sera fléché. C'est à 12h30 jusqu'à 13h30 et c'est ouvert vraiment à tous et toutes. Et puis en plus on distribue des mangas qui peuvent permettre de prendre conscience aussi, même dans la recherche, on n'est pas à l'abri de la domination masculine que l'on retrouve d'ailleurs dans le titre de l'émission, si je puis me permettre.
Non, c'est Place des Grands Hommes avec un grand et un grand H.
Oui.
Donc là, c'est la place de l'être humain, en l'occurrence.
Oui.
Voilà. Donc,
faites
bien de le dire.
Je ne pouvais pas m'empêcher de faire la boutade.
Vous avez eu raison, mais rappelons évidemment que c'est avec un grand H, en l'occurrence. Merci Marie-Coris pour toute votre énergie. Tous les renseignements sur les prochains rendez-vous et sur les engagements de ce collectif de citoyens, tous en sciences, de chercheurs citoyens, sont sur francebleu.fr, si vous voulez poursuivre cette conversation. À très bientôt, Marie-Coris.
À très bientôt, merci.
Pour le fameux procès de l'intelligence artificielle.
Oui, je reviendrai.
À bientôt, au revoir.
À bientôt. France Bleu Gironde.